Le jeune homme sembla revoir la scène un moment. Il ferma les yeux et secoua la tête. J'ai d'abord pensé que le docteur était mort, que son cœur avait soudain cessé de battre. Mais non. Il a tourné vers moi son visage amaigri, blême, a soulevé ses paupières et m'a regardé. De temps en temps, il clignait des yeux. Il était très faible, mais il respirait. Couvert jusqu'au cou, il ne faisait pas le moindre mouvement. Je lui ai parlé, il n'a pas réagi. Ses lèvres desséchées étaient presque scellées. Sa barbe avait poussé. J'ai ouvert une fenêtre pour faire entrer de l'air frais. Je n'avais pas l'impression qu'il me fallait prendre des mesures d'urgence et, comme le docteur ne paraissait pas souffrir, j'ai décidé avant tout de faire un peu de rangement, tant les lieux me semblaient à l'abandon. J'ai rassemblé tous les vêtements éparpillés, j'ai fourré dans la machine à laver ceux qui pouvaient être lavés, entassé dans des sacs ceux qu'il fallait déposer au pressing. Dans la salle de bain, j'ai vidé et nettoyé la baignoire encore pleine d'eau stagnante. À la ligne qui s'était dessinée sur les parois, je voyais bien que l'eau était telle qu'elle depuis des jours et des jours. C'était quelque chose d'impensable. Le docteur Tokai avait toujours été si méticuleux. Apparemment, il avait aussi annulé son service de nettoyage régulier car tous les meubles étaient couverts de poussière. La seule chose vraiment étonnante était que dans la cuisine, l'évier était vide, sans vaisselle sale dedans. La cuisine elle-même était impeccable. Sans doute était-elle inutilisée depuis longtemps. Aucune trace qu'il ait mangé quelque chose. Seules restaient quelques bouteilles d'eau minérale. J'ai ouvert le réfrigérateur et des odeurs indescriptibles de nourriture avariée m'ont assailli. Tofu, légumes, fruits, lait, sandwichs, jambon et autres denrées. J'ai tout jeté dans un grand sac plastique que j'ai emporté et placé dans une poubelle au sous-sol. Le jeune homme prit sa tasse vide dans sa main et la contempla un moment sous tous les angles. Puis il leva les yeux et poursuivit. Il m'a fallu plus de 3 heures pour remettre l'appartement à peu près en état. Durant tout ce temps, j'avais laissé les fenêtres ouvertes, si bien que les mauvaises odeurs s'étaient dispersées. Le docteur ne parlait toujours pas. Alors que je m'agitais un peu partout, il se contentait de me suivre des yeux. Des yeux qui, en raison de sa maigreur, paraissaient bien plus grands et brillants qu'avant, mais qui étaient totalement dépourvus d'expression. Ses yeux me regardaient, mais en réalité, il ne voyait rien. Comment dire? Il suivait juste un objet, comme une caméra automatique réglée de façon à détecter tous les mouvements. Pour le docteur, ma présence en ces lieux, ce que j'étais en train de faire, rien n'avait de sens. Dans ses yeux, il y avait une grande tristesse. Je pense que je n'oublierai jamais ce regard. Ensuite, je lui ai rasé la barbe en me servant de son rasoir électrique. Je lui ai essuyé le visage avec une serviette humide. Il n'a opposé aucune résistance. Il se laissait entièrement faire. Puis j'ai appelé son médecin traitant et je lui ai expliqué la situation. Ce dernier est venu aussitôt. Il a procédé à un rapide examen. Le docteur Tokai ne disait toujours rien. Il se bornait à nous regarder fixement, de ses yeux vides. Je m'exprime peut-être maladroitement, et j'ai du mal à trouver les mots justes, mais voilà. Je ne voyais plus le docteur comme un homme vivant. Il me faisait plutôt penser à un être qui se serait momifié à force de jeûne, et aurait dû rester enseveli sous terre, mais que les désirs temporels auraient poussé à ramener jusqu'à la surface de notre monde. Oui, je sais, cette comparaison est horrible. Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Son âme était déjà partie ailleurs. Il n'y avait aucun espoir qu'elle revienne, même si ses organes semblaient encore fonctionner normalement. Telle était alors mon impression. Le jeune Goto secoua la tête à plusieurs reprises. Excusez-moi, je suis trop long. Je vais résumer. Pour dire les choses simplement, le docteur Tokai a souffert d'une sorte d'anorexie. Il n'absorbait presque plus aucune nourriture et ne se maintenait en vie qu'en buvant de l'eau. Mais pour être exact, il ne s'agissait pas vraiment d'anorexie. Comme vous le savez, cette maladie touche surtout les jeunes femmes qui cherchent à maigrir pour des raisons esthétiques. La perte de poids, cependant, devient bientôt une fin en soi et elles en viennent à supprimer la nourriture presque totalement, Dans les cas extrêmes, l'idéal de ces jeunes femmes est de ne plus rien peser du tout. Il est très rare qu'un homme d'âge mûr soit atteint d'anorexie. Mais dans le cas du docteur Tokai, c'est pourtant ce qui s'est passé. Bien entendu, il n'a pas agi pour des raisons esthétiques. S'il n'a plus rien mangé, à mon avis, c'est parce que, littéralement, la nourriture ne passait plus. Du fait de son chagrin d'amour, demandai-je. C'est possible, répondit Goto. Ou bien peut-être aspirait-il à tendre vers le néant. Peut-être le docteur cherchait-il à s'annihiler. Car un homme normal n'aurait jamais pu supporter les souffrances atroces de la faim. Il se peut que la jubilation de voir son propre corps peu à peu réduit à néant soit plus forte que la douleur. Un sentiment sans doute similaire à ce qu'éprouvent les jeunes anorexiques qui voient leur poids diminuer. Je tentais de me représenter Tokai, voué à son unique amour, gisant dans son lit, telle une momie décharnée. Mais les seules images qui me venaient étaient celles d'un joyeux gastronome, élégant et en pleine forme. Le médecin lui a fait une injection de substances nutritives, il appelait une infirmière et l'a mis sous perfusion. Mais ce traitement a été inefficace car à plusieurs reprises le docteur Tokai a arraché lui-même son goutte à goutte. Je ne pouvais tout de même pas rester à son chevet nuit et jour. Quand on essayait de lui mettre quelque chose dans la bouche, il recrachait aussitôt. On ne pouvait pas non plus le faire hospitaliser, dans la mesure où il ne le voulait pas. À ce moment-là, le docteur Tokai avait déjà abandonné tout désir de vivre. Il avait clairement décidé de mener à terme sa propre dissolution. Aucune tentative ni aucune injection nutritive n'aurait pu enrayer ce processus. Nous étions contraints d'observer, les bras croisés, son corps qui s'affaiblissait, faute de nourriture. Ce furent des jours terribles. Alors que nous aurions dû faire quelque chose, nous ne le pouvions pas. Ce qui nous a aidés, c'était que le docteur Tokai ne semblait pas vraiment souffrir. Du moins, je n'ai jamais vu de traces de douleur sur son visage durant ses journées. Je venais chez lui chaque jour, vérifiais le courrier, faisais le ménage, m'asseyais près de lui et lui parlais de choses et d'autres, du travail, de la pluie et du beau temps. Mais le docteur ne prononçait pas un mot. Il n'avait pas la moindre réaction. Je ne savais même pas s'il était conscient. Il me regardait en silence, de ses yeux immenses dépourvus d'expression, qui de manière étrange semblaient si transparents qu'on avait l'impression de voir au travers. « Avez-vous eu un échange avec cette femme ? » demandai-je. Le docteur Tokai m'avait raconté qu'il avait une relation passionnée avec une femme mariée, qui avait un enfant. En effet, le docteur était follement amoureux de cette femme depuis déjà longtemps. Il ne s'agissait pas du tout d'une de ses amourettes habituelles. Et puis, il a dû se passer quelque chose de grave entre eux, à la suite de quoi le docteur a peu à peu perdu l'envie de vivre. J'ai téléphoné une fois chez elle. C'est son mari qui m'a répondu. Je lui ai dit que je désirais parler à sa femme à propos d'un rendez-vous à la clinique. Il m'a répondu qu'elle n'était plus là. Je lui ai demandé où je pouvais la joindre, et il m'a répondu sèchement qu'il n'en savait rien et il a raccroché. Goto resta un instant silencieux avant de reprendre. Pour vous résumer une longue histoire, je dirais qu'il m'aura fallu un certain temps pour trouver l'adresse de cette femme. Elle avait abandonné mari et enfant et vivait avec un autre homme. Je fus incapable de prononcer un mot pendant quelques secondes. Je crus d'abord que j'avais mal compris. Vous dites que cette femme a laissé tomber son mari comme elle l'a fait avec le docteur Tokai ? En résumé, oui, répondit avec difficulté le jeune homme. L'air sombre, il poursuivit. Il y avait un troisième homme. Je ne connais pas tous les détails, mais il semble qu'il est plus jeune qu'elle. Je n'ai pas l'impression, enfin c'est juste mon avis, que ce soit quelqu'un de très recommandable. Mais c'est pour cet homme qu'elle a abandonné sa famille. Le docteur Tokai n'a été pour elle en somme qu'un tremplin bien commode, et aussi semble-t-il une occasion dont elle a profité. D'après certains documents, le docteur Tokai lui aurait versé des sommes assez considérables. En consultant ses relevés bancaires, j'ai constaté qu'il y avait des mouvements plutôt inhabituels, correspondant à des montants importants. Il n'est pas impossible que cet argent ait servi à des cadeaux luxueux qu'elle se serait fait offrir, ce genre de choses. Ou bien peut-être lui demandait-elle de l'argent. On ne connaît pas tous les éléments. Les circonstances exactes ne sont pas claires, mais ce qui est certain, c'est que de grosses sommes d'argent ont été retirées en peu de temps. Je poussai un grand soupir. Tout cela est accablant, n'est-ce pas? Goto hocha la tête. Je pense que si cette femme lui avait dit « Je ne peux pas me séparer de mon mari et de mon enfant, aussi devons-nous mettre fin à notre relation », le docteur Tokai aurait pu le supporter. Il en aurait été bien sûr très affligé, car il aimait sincèrement cette femme, mais il n'aurait pas été désespéré au point de vouloir se laisser mourir. Avec le temps, il aurait fini par s'en remettre. Mais l'apparition du troisième homme, et le fait qu'elle se soit servie de lui avec autant d'habileté, lui ont sans doute porté un coup fatal. J'écoutais son récit en silence. Quand il est mort, il était descendu aux alentours de 30 kilos, continua le jeune homme. Normalement, il en pesait 70. Il avait donc perdu plus de la moitié de son poids. Ses côtes ressortaient comme des rochers sur un rivage à marée basse. Une vision qui m'était presque insupportable. Cela me rappelait des images que j'avais vues dans de vieux films, celles des corps décharnés, des prisonniers juifs, quand ces malheureux ont été libérés des camps de concentration. Camps de concentration. En un sens, ce jeune homme possédait une prescience troublante. Ces derniers temps, une question me hante. Au fond, que suis-je? Goto reprit. Médicalement parlant, il est mort d'une insuffisance cardiaque. Son cœur n'avait plus la force de transporter le sang. Mais moi, je dirais que c'est son cœur amoureux qui l'a fait mourir. Il a succombé littéralement à son chagrin d'amour. J'ai téléphoné plusieurs fois à cette femme. Je lui ai expliqué la situation. Je l'ai supplié de venir voir le docteur Tokai, pour ainsi dire en me mettant à genoux. De venir ne serait-ce qu'une fois, juste une très courte visite. Je lui ai dit qu'il ne survivrait pas longtemps, mais elle n'est pas venue. Naturellement, je n'étais pas naïf au point de croire que la vision de cette femme l'aurait sauvé. Il était résolu à mourir. Peut-être espérais-je une sorte de miracle, ou que le docteur pourrait mourir dans un meilleur état d'esprit. Mais peut-être que son apparition n'aurait fait que le perturber, ou lui aurait apporté des souffrances inutiles. Je ne savais vraiment pas. À vrai dire, j'étais moi-même dans une incertitude totale. Je croyais pourtant savoir une chose, qu'il était très improbable qu'existe sur Terre un homme qui, par amour, se retrouve incapable d'absorber la moindre nourriture et finisse par y laisser la vie. Vous n'êtes pas d'accord? Si, j'étais bien du même avis. Jamais je n'avais entendu pareille histoire. En ce sens, le docteur Tokai était vraiment quelqu'un de très particulier. Alors que je prononçais ces paroles, le jeune Goto se cacha le visage dans ses mains et se mit à pleurer sans bruit. Il semblait avoir été profondément attaché à Tokai. J'aurais aimé le réconforter, mais je me sentais impuissant. Quelques instants plus tard, il sortit un mouchoir immaculé de sa poche et essuya ses larmes. Excusez-moi de me comporter aussi bêtement. Je lui répondis qu'il n'était jamais bête de pleurer quelqu'un, et encore moins quand le défunt était une personne qui comptait pour vous. Je vous remercie vraiment. Vos paroles me font du bien. Il attrapa l'étui à raquette de squash qui se trouvait sous la table et me le tendit. À l'intérieur était rangée une raquette neuve de la marque Black Knight, un objet très coûteux. Le docteur Tokai m'avait demandé de lui garder cette raquette. Il avait commandé, mais quand elle est arrivée, il n'avait déjà plus la force de jouer. Alors que sa fin était proche, il a soudain repris conscience brièvement et m'a dit certaines choses. En particulier, il m'a prié de vous donner cette raquette. Acceptez-la, je vous en prie, et servez-vous-en. Je le remerciais et lui demandais ce qu'allait devenir la clinique à présent. Elle est fermée provisoirement, répondit-il. Ensuite, tôt ou tard, elle fermera définitivement, ou bien elle sera vendue avec tous les équipements. Bien sûr, il faut que la transmission se fasse et je resterai un certain temps pour l'assurer. Les choses ne sont pas encore décidées. J'ai besoin de me rétablir psychologiquement. Je ne suis pas encore en état de pouvoir réfléchir sereinement à l'avenir. J'espérais que ce jeune homme se remettrait du choc qu'il avait subi et qu'il pourrait retrouver une vie sereine. Au moment où nous allions nous séparer, il me dit « Monsieur Tanimura, j'aurais encore une demande à vous faire, qui j'espère ne vous paraîtra pas trop pesante. J'aimerais que vous conserviez le souvenir du docteur Tokai aussi longtemps que vous le pourrez. C'était un homme au cœur si pur. J'estime que le moins que nous puissions faire vis-à-vis des défunts, c'est d'en garder la mémoire le plus longtemps possible. Mais c'est plus simple à dire qu'à faire. Et on ne peut demander ce genre de choses à tout le monde. En effet, lui dis-je, se souvenir longtemps d'un défunt n'était pas aussi facile qu'on le croyait parfois. Je m'efforcerai d'y parvenir pour le docteur Tokai. Je lui en faisais la promesse. J'étais incapable de juger s'il avait réellement eu un cœur pur, mais j'étais certain qu'il avait été un homme hors du commun. Il était par conséquent logique de se souvenir de lui. Puis nous nous séparâmes avec une poignée de main. J'ai écrit cette nouvelle afin de garder vivant le souvenir du docteur Tokai. Car pour moi, écrire est le meilleur moyen de ne pas oublier. J'ai changé les noms et les lieux de façon à protéger les intéressés. Mais hormis cela, ce que j'ai retranscrit est tout à fait conforme à la réalité. Ce serait bien que le jeune Goto puisse lire ce texte un jour. J'ai encore un souvenir du docteur Tokai. Je ne me rappelle plus exactement quel était le contexte, mais un jour il m'a donné son opinion, toute personnelle, sur les femmes en général. Le docteur Tokai pensait que toutes les femmes naissaient avec une sorte d'organe indépendant, un organe spécial affecté au mensonge. Comment s'en servait-elle? De quel mensonge s'agissait-il? L'organe en question variait légèrement selon les individus. Mais toutes les femmes mentaient, dans toutes les situations, même pour des choses importantes. Bien entendu, elles mentaient également pour celles qui ne l'étaient pas, mais elles n'avaient pas la moindre hésitation à mentir pour les choses les plus graves. Ce faisant, la plupart d'entre elles restaient imperturbables et leur voix demeurait inchangée. Car ce n'étaient pas les femmes elles-mêmes qui agissaient, mais l'organe indépendant dont elles étaient pourvues, qui intervenait alors à sa guise. Par conséquent, mentir ne troublait en rien leur conscience et ne les empêchait en rien de dormir paisiblement, sauf peut-être de manière exceptionnelle. Je me souviens très bien de cette scène parce que le docteur Tokai avait pris alors un ton extraordinairement tranchant. Même si sur le principe je ne pouvais m'empêcher d'approuver son point de vue, je n'étais pas entièrement d'accord avec lui sur quelques exemples concrets. Sans doute avions-nous l'un et l'autre emprunté des chemins distincts et personnels pour effectuer notre escalade avant d'atteindre les mêmes sommets, pas franchement exaltants. Avant sa mort, il avait très certainement dû se rendre compte, sans s'en réjouir du tout, qu'il ne s'était pas trompé. Il va sans dire que je plaignais beaucoup le docteur Tokai. Sa disparition m'affectait énormément. Qu'il ait cessé de s'alimenter et qu'il ait enduré les tourments atroces de la faim, c'était certes une décision extrême. Il avait dû souffrir mille maux, physiquement autant que spirituellement, mais à certains égards, je l'enviais aussi d'avoir aimé une femme au point d'en mourir. Quelle que soit la femme au demeurant. Sinon, il se serait contenté de sa vie artificielle d'autrefois. Il aurait poursuivi jusqu'à son terme. Il aurait continué à entretenir des liaisons avec plusieurs femmes en même temps, à savourer d'excellents pinots noirs, à jouer My Way sur le piano à queue de son salon, et à profiter de sa vie confortable de citadin. Mais il était tombé si passionnément amoureux qu'il était devenu incapable d'absorber la moindre parcelle de nourriture. Il avait ainsi abordé aux rives d'un nouveau monde. Il avait vu des paysages jusque-là inconnus et finalement été conduit à sa propre mort. Pour reprendre les mots du jeune Goto, il avait cherché à s'annihiler. Je ne me permettrai pas de juger si sa vie était véritablement devenue plus heureuse ou plus authentique. Le destin que le docteur Tokai a connu entre septembre et novembre de cette année-là est pour moi inconcevable, comme il l'est pour Goto. Je continue aujourd'hui à jouer au squash, mais après la mort du docteur Tokai, j'ai changé de salle de sport. Dans ce nouveau lieu, c'est avec de vrais entraîneurs que je joue la plupart du temps. Cela me revient assez cher, mais au fond, c'est plus simple. J'utilise rarement la raquette que le docteur Tokai m'a offerte. Je la trouve un peu trop légère. Quand j'éprouve cette légèreté dans ma main, je ne peux m'empêcher de penser au corps du docteur, devenu si décharné et si frêle. C'est comme si chaque mouvement de son cœur entraînait le mien, à la manière de deux canaux liés par une corde. Mais aurait-on l'idée de la couper, que l'on ne trouverait aucun couteau qui y parvienne. Rétrospectivement, nous avons tendance à penser qu'il ne s'est pas lié avec le bon canot. Cependant, pouvons-nous nous contenter d'une affirmation aussi simple? Je serais enclin à considérer que, de même que cette femme lui a menti, en utilisant sans doute un organe indépendant, le docteur Tokai, de son côté, l'a aimé, en utilisant également un organe indépendant, même s'il y a entre les deux, bien sûr, une différence de taille. Il s'agissait d'actions hétéronomes, hors de contrôle de la volonté des intéressés. Pour un tiers, il est facile après coup de critiquer leur conduite ou de secouer la tête avec pitié. Pourtant, sans l'intervention de ces organes qui nous conduisent à des hauteurs incroyables, nous précipitent dans des abîmes, nous plongent dans la perplexité, nous font miroiter de merveilleux mirages et quelquefois nous entraînent jusqu'à la mort, notre vie serait une bien pauvre chose. Ou alors, elle se réduirait à un simple catalogue d'artifices. Il nous est bien entendu impossible de savoir ce que pensait ou imaginait le docteur Tokai quand il se trouvait au seuil de la mort qu'il s'était choisi. Alors qu'il était en proie à d'atroces souffrances et endurait les affres de l'agonie, il a cependant paru reprendre ses esprits, ne serait-ce que temporairement, et a demandé que me soit léguée la raquette de squash dont il ne s'était pas servi. Peut-être désirait-il ainsi me transmettre un message. Qu'est-ce que je suis au fond? Dans ces derniers instants, sans doute avait-il trouvé la réponse à cette question. Et le docteur Tokai désirait me la faire partager. C'est mon sentiment.